vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 14 mai 1610, Ravaillac assassine Henri IV. Au matin du vendredi 14 mai 1610, Henri IV reçoit la visite de son fils naturel, César de Vendôme, qui se déclare inquiet. En effet, un certain Labrosse, médecin et astrologue, prédit le décès du roi pour le jour même. Vendôme exprime ses craintes à Marie de Médicis et supplie son père de ne pas quitter le Louvre. Pourtant, vers 16h, Henri IV se rend à l'arsenal, au chevet de son ministre Sully, souffrant. Il se déplace sans escorte pour ne pas attirer l'attention. Par le beau temps printanier, le carrosse est ouvert. Le vert galant se tient au fond, au milieu de la banquette, entre Monsieur de Montbazon et le duc d'Épernon. Rue de la Ferronnerie, il faut s'arrêter en raison d'un accrochage entre deux voitures. François Ravaillac suit Henri IV depuis le Louvre. L'embarras de circulation lui permet de rattraper le carrosse royal. Il monte sur une borne et frappe le souverain d'un premier coup de couteau. « Je suis blessé !» crie le roi, en levant le bras. Ce réflexe est fatal. Ravaillac lui porte un second coup qui, passant sous le bras, atteint le cœur et le transperce. Henri IV meurt sur le champ. Vers 16h30, l'équipage royal arrive au Louvre. Le corps du roi est monté dans sa chambre à coucher au premier étage. Jusqu'à 21h, la rumeur affirme que le monarque est seulement blessé. En sa qualité de colonel général de l'infanterie, le duc d'Épernon met le Louvre en défense. Il place les gardes au Pont-Neuf et aux abords du palais de justice. Il se rend au Parlement accompagné du duc de Guise. Le dauphin est prévenu vers 18h. L'assassinat de son père le fait roi. Il est désormais Louis XIIIe du nom. Un peu plus tard dans la soirée, Marie de Médicis l'envoie chercher pour le faire coucher dans sa chambre. Demain, elle sera régente du royaume. Ravaillac est né à Angoulême en 1578 ou en 1579. Son père est solliciteur de procès. Lui-même est d'abord valet d'un conseiller au Parlement avant de reprendre la profession paternelle. Il manifeste des sentiments religieux exaltés et séjourne un temps dans un couvent de Feuillans. Son comportement singulier met prématurément un terme à sa vie religieuse. Il est grand et fort, vigoureusement bâti. Il a des mains énormes. Ses cheveux drus et sa barbe fournie, d'une même couleur noire à reflets roux, encadrent un visage émacié dans lequel brille un regard ardent. Il a un air satanique. Son physique le dessert au point qu'il est un jour accusé d'un meurtre commis à Angoulême. Emprisonné durant une année, il est finalement lavé de tout soupçon. Mais il est couvert de dettes et il ne tarde pas à retourner en prison pour ce motif. Il profite de ce nouveau séjour dans les geôles royales pour étudier la théologie. Il a de fréquentes visions. Durant ses instants d'illumination, il écrit des vers mystiques. Une question l'obsède, dans quelles conditions un chrétien a-t-il le droit de tuer un souverain ennemi de la papauté ? À sa sortie de prison, Ravaillac est une célébrité locale. Le duc d'Épernon, gouverneur d'Angoulême, se le fait présenter. Il l'envoie à Paris pour solliciter dans un procès. Il rejoint ensuite Naples. Les princes protestants du Saint-Empire resserrent alors leur alliance contre la France. Dans les négociations entre la Hollande et l'Espagne, Paris pèse de tout son poids pour contraindre Madrid à reconnaître au moins de facto l'indépendance des Provinces-Unies. Informé des traités d'alliance que la France s'apprête à conclure avec les souverains protestants de Suède et du Danemark contre les intérêts de l'empereur et du parti catholique allemand, Ravaillac évoque la nécessité de tuer Henri IV. Il regagne Paris où il séjourne en juin et juillet 1609. Il suit régulièrement les déplacements du roi. Un jour, il va jusqu'à l'aborder à proximité du cimetière des Innocents, mais les gardes le repoussent. À l'approche de Pâques 1610, Ravaillac retourne à Angoulême. Il revoit sa mère, mais ses pensées homicides l'empêchent de trouver la paix de l'âme. Il ne doute plus, sa résolution est définitive. Le meurtre du roi par l'ordre de Dieu peut seul le faire rentrer dans la pleine communion de l'Église. En avril 1610, il dérobe un couteau dans une auberge. Au moment d'agir, il hésite et reprend le chemin de sa ville natale à Étampes, Un calvaire le rappelle à son devoir. Il rebrousse chemin et revient à Paris. Le 14 mai 1610, vers 16h, il se jette sur Henri IV devant la boutique à l'enseigne du cœur couronné percé d'une flèche, rue de la Ferronnerie. Il l'assassine de deux coups de couteau. Ravaillac se laisse arrêter, le duc d'Épernon donne l'ordre de ne surtout pas le tuer, il l'installe à l'hôtel de Ré, qui est contigu du Louvre, où il retrouve progressivement calme et sérénité. Le 17 mai, il est transféré à la conciergerie pour les nécessités du procès confié au Parlement de Paris. L'instance est instruite par une commission placée sous la présidence de M. de Harlay. Les interrogatoires qui alternent avec les séances de torture durent 13 jours. Les enquêteurs cherchent à déterminer des complicités éventuelles. Ravaillac affirme avoir agi seul. Le 27 mai au matin, à genoux, un cierge dans la main, il entend l'arrêt de la cour qui le condamne à mort. De nouveau soumis à la torture, des brodequins, il demande pardon au roi, à la reine et à ses juges. À 15h, extrait de la conciergerie, il monte dans le tombereau à ordures qui le mène jusqu'à la place de Grève, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, où est prévu le supplice de l'écartèlement. Après une demi-heure de souffrance atroce, les articulations cèdent et les membres disjoints sont aussitôt happés par la foule qui s'en empare, les coupe en morceaux et pour finir, les brûle. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire « Un jour, trois livres » préparée par Emmanuel et que j'aurai le plaisir de vous présenter. C'est Idir qui nous accompagne en chanson avec l'un de ses plus grands succès, Tizi Ouzou.
Deine Fee gemut, Yes, mi tamas a det nur man et zu.
Is it a source of heaven? Dans ces collines s'achève le rêve des fous qui veulent de nous que l'on oublie. Fizi, Fizi Wissou se lève. Dans ces collines s'achève le rêve des fous qui veulent de nous que l'on oublie. Fizi, Fizi Wissou.
Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire Un jour, trois livres, préparée par Emmanuel, et que je vous présente. Nous commençons par Les liaisons périlleuses de Frédéric-Sophie Bresse. C'est publié dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité en 1838 à Chamonix. Tout sépare Kitry Darcy, comtesse française établie à Genève, de Pernette Croze, fille d'auberge. Quand elle se retrouve à la mer de glace, débute entre elles un jeu intrigant avec de vigoureux guides dont la réputation n'est plus à faire. Pour Kitry, l'essentiel est d'être la première femme alpiniste. Elle veut gravir le Mont Blanc malgré les railleries, les obstacles et son sexe. Elle le fera avec le soutien du séduisant Gabin, le seul guide à croire en elle. Mais sera-t-elle vraiment la première femme à gravir le Mont Blanc ? Ce roman est fondé sur la vie d'Henriette d'Angeville. Les liaisons périlleuses de Frédéric-Sophie Bresse, c'est publié aux éditions Presse de la Cité dans la collection Terre de France. Rien ne nous séparera de Thierry Cohen aux éditions Plomb. Au Maroc, en 1964, Sarah et Jacob sont de pauvres paysans. Si pauvre que Jacob, contre l'avis de son épouse, accepte de confier provisoirement leur fille et leur fils à une institution de bienfaisance. Une décision qu'il regrettera toute sa vie car quelques mois plus tard, l'institut leur annonce que les petits sont décédés. 12 ans après le drame, une rencontre fortuite le pousse à remettre en cause la mort de ses enfants. Ce roman est inspiré des affaires de kidnapping et de vente d'enfants et notamment celle de Victor et Sula, qui avait toujours cru avoir été adopté par une famille française en raison des terribles maltraitances que leurs parents leur avaient fait subir. Rien ne nous séparera de Thierry Cohen, c'est aux éditions Plomb. Et nous terminons cette chronique par « On n'empêche pas une étoile de briller » de Tony Béard aux éditions Charleston. Lors de la rencontre de Max et Sacha, c'est le coup de foudre. C'est les années 60, le rock'n'roll au temps du Golf Draw. Elle était dactylo, lui garçon de course, et tous deux rêvaient d'Amérique et de musique. Mais Sacha reçoit une proposition pour se produire aux États-Unis. Et Max reste à Paris. Près d'une soixantaine d'années plus tard, une femme mystérieuse et charismatique, coiffée d'un large chapeau, son regard clair caché par de grandes lunettes de soleil, sonne chez Max Dahan, au 19 bis boulevard Montmartre. C'est Sacha. On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard, c'est aux éditions Charleston. Ainsi s'achève cette émission Historama. Nous nous séparons en chanson avec toujours Idir, nous écoutons Izumal.
Yeah. We'll be right back.